France Musique. France Musique, les grands entretiens, Thomas Verkracht.
Je m'appelle Carole Beffa, je suis né à Paris, je suis compositeur, pianiste et musicologue. Carole Beffa, alors vous avez commencé la musique au conservatoire du 5e quand vous aviez 4 ans, c'est ça? C'est très tôt pour commencer la musique?
Alors 5 ans, mais oui,
c'est quand même très tôt.
Oui, c'est tôt. J'ai commencé par une année de solfège sans instrument, même s'il y avait déjà un piano à la maison. Et puis l'année suivante, j'ai fait à la fois de la flûte à bec et du piano. Flûte à bec parce que c'était un des rares instruments avant qu'on pouvait faire suffisamment tôt. Les autres exigeaient que l'on soit un peu plus âgé. Peu de temps après, je me suis mis au saxophone, que j'ai dû commencer vers 10 ans, avec quelqu'un qui était d'ailleurs aussi compositeur, Guy Lacour, l'auteur d'études pour saxophone qui sont un des best-sellers de la maison Biodo. Et puis je faisais de la musique de chambre aussi, j'avais de la chorale. Et assez vite, je me suis mis à improviser vaguement dans un style un peu jazzistique. J'avais un ami qui m'avait offert quantité de cassettes, où il s'était amusé à copier des disques parmi ceux qu'il préférait. Donc il y avait notamment Louis Armstrong, Lionel Hampton, et puis d'autres. J'avais une assez bonne culture jazzistique quand je devais avoir 12 ou 13 ans.
Souvent pour un enfant qui commence la musique, le solfège, il y a un côté un petit peu rébarbatif, aride, des premières gammes, des sons qui sont pas forcément très beaux. Chez vous, on voit qu'il y a tout de suite une espèce de boulimie d'instruments, de vouloir toucher à tout. Il y a tout de suite une notion de plaisir quelque part.
Il y a eu une notion de plaisir assez tôt. Je crois que comme beaucoup, il y a eu un âge ingrat, qui n'est pas tout à fait l'âge ingrat de l'adolescence, mais un peu avant. Vers 10-11 ans, je voulais me persuader que je n'aimais finalement pas tant que ça la musique et que il fallait bien que je travaille parce qu'on m'avait demandé de la travailler, mais que c'était pas vraiment mon truc. Et puis, cette espèce de crise existentielle a duré maximum 6 mois. Et ensuite, j'ai pris encore plus de plaisir. Ça aurait été peut-être différent si j'avais commencé par un instrument à cordes. À vrai dire, parce que un de mes amis à l'école des enfants du spectacle changeait de violon, j'ai pu hériter, entre guillemets, de son violon pendant 6 mois et j'ai essayé, tant bien que mal, de m'y mettre seul. Le résultat, vous pouvez vous en douter, était assez catastrophique. Je le regrette peut-être un petit peu parce que les cordes gardent leur mystère quand je dois écrire pour elles, alors que les vents, du seul fait que j'ai fait beaucoup de flûte à bec et de saxophone, et ce sont des instruments pour lesquels j'écris plus facilement, pour lesquels je n'ai aucune difficulté à préciser les articulations, par exemple. Quant au solfège, qui est souvent très rébarbatif, je dois dire que pour moi, il ne l'était pas du tout, peut-être grâce à la méthode d'Yves Lemonnier, qui était le directeur du conservatoire du 5e arrondissement où j'étais, et qui imaginait une méthode avec un apprentissage simultané des clés de sol et fa. Et ça m'apparaissait comme à la fois très logique et très ludique, comme une espèce de code à déchiffrer. Et j'ai jamais eu trop de difficultés, pas plus que je n'en avais en dictée. Peut-être parce que, assez vite, sur les conseils d'un autre professeur de solfège qui était par ailleurs compositeur et organiste, et dont je garde un excellent souvenir, Jean-Dominique Pasquier, eh bien, on m'a mis dans une classe d'harmonie avec Béatrice Berstel. Et donc, j'ai étudié avec Béatrice Berstel, qui était parfois secondée par Emmanuel Haïm, quand elle ne pouvait pas assurer tous les cours. Et je garde un très bon souvenir de l'harmonie. À vrai dire, j'avais aussi été incité par un professeur de piano, Marthe Nallet, qui était elle-même une élève de Nadia Boulanger. Elle avait cette conception qui me semble assez saine de l'apprentissage de la musique comme un tout. C'est-à-dire que il y a évidemment l'apprentissage de l'instrument en tant que tel, mais aussi une forme d'invention par l'écriture pour piano, éventuellement par l'improvisation au piano. Et je crois que c'était une bonne chose de transmettre à l'enfant que j'étais cette façon d'apprendre la musique.
C'est ça qui vous a donné envie de faire du piano, en fait, cette facilité aussi à créer avec l'instrument?
Je pense en tout cas que ça a entretenu mon goût pour le piano. Vous posiez la question des gammes, est-ce que j'avais envie de faire des gammes? Non, pas plus que j'avais envie de répéter des exercices de Hanon. Dieu merci, je ne l'ai pas fait très longtemps d'ailleurs. Je n'avais pas forcément toutes les études qu'on me donnait à travailler, qui n'étaient pas les études les plus intéressantes du répertoire, parce que il y en a même beaucoup. Donc j'aimais pas trop ça, mais effectivement, la récompense qui consistait ensuite à pouvoir pour soi-même explorer les touches du clavier et faire absolument ce que l'on voulait était suffisamment grande pour faire avaler la pilule du travail.
Donc c'était tout de suite un goût pour l'improvisation, dès que vous étiez petit claviériste, si je peux dire.
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est venu aussi ensuite au saxophone, c'était peut-être lié au jazz en partie, mais effectivement, piano comme saxophone, très tôt, j'ai aimé explorer de nouvelles sonorités, être absolument libre de faire ce que je voulais. Pour autant, je n'ai pas l'impression que lorsque je travaillais un morceau, je m'exerçais à l'orner, à le varier, à faire toute chose qui aurait consisté à prendre pour prétexte le morceau pour essayer d'en faire davantage. Mais ça me plaisait beaucoup, cette qualité d'invention que la musique permettait.
Et il n'y a pas un moment donné où vous vous êtes dit « je vais travailler le piano comme professionnel pour en faire mon métier en tant que pianiste de concert ?»
Alors c'est assez curieux, je n'ai pas vraiment le souvenir d'y avoir vraiment songé. Je devais avoir intériorisé, je ne sais pas trop pourquoi ni comment, le fait que les carrières de pianiste étaient extrêmement dures, compétitives, qui laissaient beaucoup de gens sur le carreau et qui produisaient malheureusement pas mal d'amertume et d'aigreur. Donc j'ai jamais vraiment songé à ça. Plus exactement, j'y ai songé, mais beaucoup plus tard. Et c'était absolument pas comme concertiste que je me voyais, mais plutôt comme pianiste accompagnateur. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait la classe d'accompagnement vocal et une classe de lead et mélodie avec Jeff Cohen au Conservatoire de Paris. Et c'est encore plus tard que j'ai compris qu'on pouvait aussi être improvisateur, soit que l'on accompagne des films muets, soit qu'on accompagne des lectures, soit une chose à laquelle je ne songeais pas vraiment, qu'on puisse improviser sur des thèmes que propose le public. Je ne suis pas certain que l'idée d'être un pianiste-interprète m'ait vraiment effleuré.
Vous avez parlé du CNSM, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Vous y êtes rentré à quel âge, Carole Beffa?
J'y suis entré juste avant mes 15 ans, en classe d'harmonie chez Jean-Claude Reynaud, qui était un professeur très impressionnant et dont je garde un très bon souvenir. C'était notamment un excellent pasticheur, quelqu'un qui mettait un soin absolument incroyable à écrire dans le style de quantité de compositeurs dont on voyait très clairement qu'il les aimait et qu'il les aimait beaucoup. Il se trouve que au CNSM, on a une formation extrêmement poussée de pastiche, qui est à peu près unique au monde, qui fait que vous avez certains élèves des classes d'écriture, donc qui ont suivi les classes, par exemple, d'harmonie, de contrepoint, de fugue et forme, qui sont capables d'écrire une fugue dans le style de Bach pour orgue à cinq voix, ou un allegro de sonate pour trio avec piano dans le style de Brahms, avec un tel degré de sophistication et parfois d'achèvement, de perfection, que si vous jouez dans les concerts, c'est fait parfois d'ailleurs, et des concerts organisés comme ça, si vous jouez ces pièces-là et puis des pièces peu connues des mêmes compositeurs, eh bien le public ne sait pas trop qui a écrit quoi, si on lui demande de juger à l'aveugle. Maintenant, est-ce que je regrette donc d'avoir fait ces classes qui étaient pour moi, donc outre les trois que j'ai mentionnées, harmonie, contrepoint et fugue, la classe d'écriture du XXe siècle, qui s'appelle aujourd'hui écriture du XXe et XXIe siècle, je crois. Je ne pense pas, parce que ça m'a permis d'abord d'affiner ma connaissance des styles, ce qui est très important pour le musicologue que je suis. ça m'a permis aussi de vraiment connaître la musique de l'intérieur et puis de comprendre ce que c'est que d'apporter un soin infini à telle ou telle partition. Lorsque vous le faites pour une partition qui n'est pas la vôtre, mais qui est simplement le pastiche d'un style, d'un autre, eh bien, je crois que c'est une bonne propédeutique pour ensuite pouvoir le faire pour votre propre musique. C'est comme ça que j'envisage les choses. Donc, ça n'est absolument pas, à mon avis, une discipline asséchante. Je pense que lorsqu'elle est bien enseignée, et elle l'était très bien, je crois qu'elle est encore très bien au Conservatoire de Paris aujourd'hui, eh bien, elle peut au contraire avoir des vertus.
France Musique, les grands entretiens de Carole Beffa.
Au CNSM, vous avez parlé beaucoup de pastiche. C'est quelque chose qui vous a fait aller vers l'écriture ou c'est deux paramètres assez différents dans le fond?
Alors, effectivement, au fur et à mesure que je déroulais ces classes d'écriture assez longues, j'écrivais aussi ma musique entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que j'étais forcément très influencé par les styles que j'étudiais alors. Je me souviens par exemple d'avoir dans cette maison même, jouer quand je devais avoir 14 ans, sous l'impulsion d'Alain Kremski, très grand compositeur, pianiste, défricheur de répertoire, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Je me souviens, lors d'une émission, Alain Kremski m'avait dit de jouer une de mes petites compositions, qui était dans un style un peu schumannien, mais tronqué, comme gauchi par des fausses notes, qui épissaient un peu l'harmonie. Il a modifié. Je me souviens un peu plus tard d'avoir écrit une pièce pour flûte et piano, qui avait d'ailleurs été créée par la très jeune Juliette Hurel à l'époque et Dana Chokerlier au piano. C'était dans un style un peu post-ravelien, qui s'inspirait certes beaucoup de Ravel, mais qui n'était pas tout à fait ravelien quand même. Et au fur et à mesure que j'étudiais ces auteurs et que je me pénétrais de leur répertoire, je crois que j'en suis venu à écrire dans un style peut-être plus personnel. Une pièce que j'ai écrite pour violoncelle, qui était jouée par Bertrand Braillard, qui est aujourd'hui un des violoncellistes de l'Orchestre National de l'Île-de-France. Je devais avoir 15 ans, je pense, ça s'appelait Synthèse. Et il y avait une espèce d'énergie modale assez rugissante, on va dire, puis d'autres moments plus apaisés. J'ai retravaillé cette pièce par la suite. Elle est devenue rhapsodie pour violoncelle, mais ça fait partie de ces musiques qui sont, entre guillemets, d'après de vieux cahiers, selon la jolie formule de Prokofiev. Un peu plus tôt, et je m'en suis resservi pour un disque que j'ai fait avec mes amis de l'ensemble Contraste, un disque qui s'appelle Miroir, dans une version pour piano, Fender Rhodes, alto et saxophone. Je me souviens d'avoir réutilisé deux pièces que j'avais écrites alors quand j'avais 11 ans pour l'une d'entre elles, une bossa nova, et puis 12 ou 13 ans pour une autre, qui était une pièce que j'avais écrite en classe de jazz. Alors, la bossa nova, c'était lié au fait que lors des nombreuses tournées de théâtre que j'ai faites, il y en avait une pour une pièce de Fassbinder, Liberté à Brême, mise en scène par Jean-Louis Ourdin, et il y avait plusieurs musiciens qui étaient sur scène, véritablement sur scène, qui étaient d'ailleurs tous à la fois interprètes, comme musiciens et comme acteurs, on va dire. Et puis, j'aurais proposé de jouer cette bossa nova, arrangée comme j'avais pu pour les instruments du bord. Donc, il y avait un piano, une trompette, un saxophone et des percussions. Cette pièce, je l'ai retravaillée ensuite et c'est devenu Je t'invoque sur ce CD miroir. Et la pièce que j'avais écrite en classe de jazz au conservatoire du 5e, je l'ai appelée ensuite Chinatown et elle n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qu'elle était quand j'avais 13 ans, quand je l'avais imaginée pour la première fois.
Le jazz, et c'était quoi les autres influences de Carol Beffa, compositeur adolescent de 13-14 ans?
Alors, à l'époque, j'étais un fan absolu de la musique de Schumann, compositeur que j'aime toujours beaucoup, évidemment, mais c'était assurément mon compositeur préféré alors, peut-être pour son côté torturé, peut-être pour l'insistance qu'il peut avoir à mêler des accords absolument inouïs. Je ne connaissais pas encore beaucoup le Schumann contrapuntiste qui existe, qu'on trouve dans certaines pièces, que j'ai découvert un peu plus tard seulement. Mais j'étais un fan absolu de Schumann. Aujourd'hui, j'aurais du mal à dire que Schumann m'influence dans ma musique, encore que il est possible que le fait que je sois toujours très fan dans ma musique, clocks on va dire, des mouvements perpétuels, sans interruption, vient peut-être de ce côté parfois fou, hectique, on va dire, qu'on trouve dans certaines pièces de Schumann, par exemple sa toccata.
Conservatoire de Paris, vous avez donc étudié dans plusieurs classes d'écriture, et certaines de ces classes d'écriture, elles sont tenues par des gens qui sont aussi compositeurs. Vous avez parlé de la classe de fugue de Thierry Esquèche. Thierry Esquèche, c'est quelqu'un qui est aussi important pour votre univers. Ça ressemble à quoi, la classe de fugue, déjà, de Thierry Esquèche?
Alors, au moment où je l'ai faite, Thierry Esquèche était un jeune professeur au conservatoire. Bon, il a eu cette classe tôt, hein, il devait avoir 27 ans, je crois. Moi, j'ai fait cette classe, j'ai dû entrer en 95. Donc il avait à peine 30 ans, je pense. C'était déjà un compositeur dont on savait qu'il était très grand. On en parlait un peu comme du nouveau Messiaen. Pas simplement parce qu'il avait fait des études longues au conservatoire lui-même, pas simplement parce qu'il était compositeur et organiste, mais parce qu'il respirait la musique même. Et c'est vrai que je me souviens, c'était quelqu'un qui était à la fois extrêmement précis, minutieux dans ses commentaires, qui était à la fois assez sévère, qui nous faisait beaucoup travailler, et qui avait un humour toujours... sans rire, qui pouvait être ravageur. J'ai un très bon souvenir de lui, c'est maintenant un ami, c'est un compositeur pour qui j'ai énormément d'estime. Ses cours étaient vraiment une bouffée d'air frais en ce que on sentait vraiment qu'il concentrait, lui, tout ce que la musique pouvait avoir de fort, de porteur, de puissant.
parallèlement au CNSM, vous avez fait des études générales assez poussées. Carole Beffa, c'est un cas un peu unique dans la musique contemporaine d'avoir fait des études universitaires dans plein de domaines. Pourquoi autant de choses? Vous avez fait des études en histoire, en philosophie, en anglais. C'était une volonté d'assurer ses arrières ou c'était pour s'élargir l'esprit, on va dire?
Peut-être un petit peu les deux, essentiellement quand même pour s'élargir l'esprit. Ça fait partie des disciplines que j'appréciais, dont j'avais envie de les approfondir. Alors, depuis, je continue de les approfondir à ma façon, en lisant des livres, sans nécessairement suivre de cours, mais c'était des cours intéressants en histoire, alors que au lycée et en époque à Nianken, j'avais plutôt mis l'accent sur l'histoire contemporaine. J'ai voulu aussi m'intéresser à d'autres périodes de l'histoire. Je me suis beaucoup intéressé notamment à l'histoire de la Révolution française, qui marque précisément l'entrée dans cette histoire contemporaine. Et puis la philosophie est encore un des domaines qui m'intéresse. Je lis beaucoup de livres de philosophie. L'anglais, d'abord j'avais une certaine facilité pour l'anglais. J'ai toujours eu une affinité avec la littérature anglaise et américaine. Et ce sont des auteurs que je continue de lire. J'ai mentionné Lewis Carroll et son humour, mais plus généralement, l'understatement britannique est une chose qui me touche et qui m'est chère.
Vous avez parlé de l'histoire contemporaine. Dans vos partitions, il y a aussi parfois des références à des musiques du passé. Est-ce qu'il y a quelque chose de lié à ça?
Bon, je pense qu'il y a très peu de compositeurs qui ne sont pas, un tant soit peu, pétris de musique du passé. Ça s'entend plus ou moins dans la musique qu'ils écrivent, mais je pense que la plupart des compositeurs ont une bonne connaissance de l'histoire de la musique, en tout cas localement, pour certaines parties d'entre elles. Et oui, j'écris une musique qui, à bien des égards, est référencée, qui considère que la pulsation, l'harmonie, même le thématisme sont des éléments essentiels du langage musical. Pour autant, je suis pas certain qu'il faille y voir un lien avec mon goût pour l'histoire, qui est certain, mais qui, à mon avis, correspond à autre chose.
Opus 1 de Carole Beffa, Rhapsodie pour violoncelle seul, ici interprété par Sébastien Von Kuyk. Aujourd'hui à la technique, il y avait Pierre Monteil et Pierrick Charles, mixage Bruno Mourlan, une émission préparée par Flora Sternadel, une réalisation de Christine Amado. Rendez-vous demain à la même heure.
À réécouter sur francemusique.fr.